La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, très content de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui. Une demi-heure d'infos sur la VOA, Jacques Aristide à Washington, aux côtés de Anne Albertson, en ce mardi 16 septembre 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, la SADC menace les rebelles rwandais des FDLR d'une action militaire au Congo-Kinshasa. Au Nigeria, 12 soldats condamnés à mort pour mutinerie. Nouvelle aide américaine à la Centrafrique.
En ce qui concerne l'aide humanitaire, je suis heureux de pouvoir vous annoncer aujourd'hui un don additionnel de la part du gouvernement américain à la République centrafricaine de 28 millions de dollars.
À l'international, les États-Unis frappent pour la première fois le groupe État islamique près de Bagdad. Et dans la partie magazine, retour en force du rap en Côte d'Ivoire.
Un de nos tubes, celui qui nous envoie un peu plus loin, qui nous ouvre beaucoup de portes actuellement, ça s'appelle « Tu es dans pince, tu es dans des problèmes ». C'est en ouchi ivoirien.
Voilà. Voilà des rappeurs ivoiriens que nous entendrons avant l'habituelle tranche musicale du matin. Ne manquez pas non plus l'actu sportive en fin de magazine.
La communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a ordonné hier aux rebelles hutu-rwandais en République démocratique du Congo d'évacuer les zones tenues dans l'Est, rapporte l'AFP. Réunis à Pretoria, des responsables du bloc régional les ont menacés d'une action militaire pour non-respect des accords. Ce sont notamment les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont dans le collimateur, la SADC pressant leurs dirigeants de débloquer le processus de reddition volontaire. Seuls 200 combattants des FDLR environ se sont rendus sur les 1500 à 2000 hommes que compterait encore le mouvement en RDC et le processus est bloqué depuis 3 mois. La SADC envisage d'y envoyer une mission qui fera un rapport à sa prochaine réunion.
À Bujumbura, maintien en détention de Pierre Claverma Bonimpa, incarcéré depuis mai pour atteinte à la sûreté de l'État, le défenseur des droits de l'homme du Burundi est gravement malade. Nicolas Pinault.
Oui, le tribunal de grande instance de Bujumbura a confirmé le maintien en détention préventive du président de l'Association pour la protection des personnes détenues et des droits humains, APRODH. Pierre Claverma Bonimpa a été arrêté et écroué en mai dernier. Son procès s'est ouvert début juillet. Mais son état de santé s'est vite dégradé en raison de complications dues à une grippe mal soignée et à un paludisme contracté en prison. Les défenseurs de M. Bonimpa dénoncent le non-respect de la loi burundaise qui veut que tout détenu de plus de 60 ans et atteint d'une maladie chronique peut être libéré. Mais jusqu'à présent, la justice burundaise a rejeté toutes leurs demandes de libération. Hier, à la demande du procureur, une commission médicale a été créée pour examiner l'état de santé de M. Mbonimpa. Elle rendra ses conclusions d'ici 10 jours.
Au Nigeria, 12 soldats ont été condamnés à mort hier pour mutinerie après que des tirs eurent visé leur officier de commandement à Maïdougouri, dans le nord-est du pays. Selon l'AFP, un tribunal militaire de 9 membres siégeant à Abuja a reconnu les soldats coupables de 6 chefs d'accusation, mutinerie, complot criminel, tentative de meurtre, désobéissance, insubordination et fausses accusations.
Le Maroc entend renforcer sa loi antiterroriste afin de mieux lutter contre le recrutement de combattants pour des groupes djihadistes. Ils sont notamment suspectés d'aller rejoindre les rangs de l'État islamique en Irak et en Syrie. Claire Morin-Gibourg.
C'est le quotidien Aujourd'hui le Maroc qui l'affirme. Le gouvernement a élaboré un projet de loi afin de compléter le code et les procédures pénales pour, je le cite, « adapter l'arsenal juridique marocain à la nouvelle donne ». Car selon les autorités, ce sont plus d'un millier de Marocains qui combattent ou ont combattu en Syrie et en Irak. Un chiffre qui monterait à près de 3000 personnes, si l'on inclut les doubles nationalités. La liste des actes considérés comme terroristes par la loi a été étoffée et un nouvel article du Code pénal prévoit des poursuites contre quiconque se rallierait à des entités terroristes, même si les actes terroristes ne visent pas à porter préjudice au Maroc ou à ses intérêts. Les personnes poursuivies encourront jusqu'à 15 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Parallèlement, un amendement au Code de procédure pénale permettra également de poursuivre les terroristes étrangers sur le sol marocain. Un projet de loi qui pourrait être adopté par l'exécutif dès cette semaine, selon plusieurs sites d'information marocains.
Nous revenons ce matin sur la nouvelle force de l'ONU qui a pris les commandes du maintien de la paix en République centrafricaine. Une cérémonie solennelle a eu lieu hier à la base de l'aéroport de Bangui. Extrait du discours de la présidente centrafricaine de transition, Catherine Samba-Panza.
Je formule le vœu que soient allégées les mesures de confiance en vue d'enclencher véritablement le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité.
Le chargé d'affaires de l'ambassade américaine en RCA, David Brown, a également participé à cette cérémonie de déploiement des casques bleus. Au micro de Bagassikoura, M. Brown explique pourquoi il était important pour les États-Unis de rouvrir avant-hier leur ambassade à Bangui après 21 mois de suspension.
C'était important de rétablir notre présence sur le terrain ici en RCA afin de pouvoir comprendre mieux la situation actuelle, la crise centrafricaine. Et aussi être présent pour travailler étroitement avec les Nations Unies et les autres partenaires internationaux.
Et quelle va être la contribution des États-Unis pour accompagner ce processus de paix?
Bon, il y aura non seulement l'aide de plusieurs volets, mais aussi notre assistance technique de conseil. En ce qui concerne l'aide humanitaire, je suis heureux de pouvoir vous annoncer aujourd'hui un don additionnel de la part du gouvernement américain à la République centrafricaine de 28 millions de dollars. Ceci s'ajoute aux 118 millions de dollars qui ont été déjà octroyés dans cette année fiscale et de 35 millions de dollars donnés l'année précédente, qui veut dire que le total dépasse déjà 180 millions de dollars. En plus de cela, on a promis 100 millions de dollars qui jusqu'ici a permis le transport des troupes burundais et rwandais.
Dans l'actualité encore, le Salon international de l'agroalimentaire, ou si vous préférez le CIALO, vient de prendre fin à Lomé au Togo. L'occasion pour les producteurs ouest-africains de proposer des solutions à l'insécurité alimentaire et la famine qui menace régulièrement la région. Lola Akomatsri a joint le promoteur du salon, Tito Atsikpo.
Cette année, c'est l'année internationale de l'agriculture familiale et je peux dire que c'est cette agriculture familiale que nous pouvons encore appeler l'agriculture de subsistance que nous avons toujours utilisée en Afrique. On peut véritablement atteindre la sécurité alimentaire telle qu'aujourd'hui les différentes politiques, les programmes alimentaires définis par les gouvernements africains à travers le programme national de la sécurité alimentaire, du fait que les uns et les autres font par rapport aux différents projets et aux programmes mis en œuvre par le gouvernement, pensons qu'il y a une nouvelle dynamique qui est insufflée à l'agriculture. Et si on s'y met sérieusement, on y accorde la volonté, on soutient les projets des jeunes, nous pensons que la sécurité alimentaire peut être atteinte.
Et pour aller à l'échelle continentale en Afrique, quand on sait qu'il y a un paradoxe par rapport au potentiel agricole de l'Afrique, mais en même temps, de l'autre côté, on a des pénuries alimentaires, voire des famines. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux, selon vous?
Je crois que chaque individu doit s'atteler à ce que, par rapport aux initiatives qui sont menées, chacun joue sa partition. Quand il y a des problèmes sur le plan de la sécurité alimentaire, cela va sans dire que l'économie est impactée de manière négative. Parce que les grands valides qui peuvent bien vouloir travailler dans les champs, si ces personnes ont faim, ne peut pas avoir véritablement une économie qui permette peut-être à chaque individu de se nourrir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces américaines ont mené une frappe aérienne contre une position djihadiste pour la première fois près de Bagdad, la capitale irakienne. Le Pentagone a fait savoir qu'il avait vocation à soutenir l'armée irakienne dans son offensive contre les terroristes de l'État islamique. Un autre raid aérien a eu lieu dans le nord de l'Irak, près de Sinjar. Des développements qui interviennent au moment où la communauté internationale s'est engagée hier à Paris à soutenir l'Irak par tous les moyens contre l'État islamique. À l'issue d'une réunion de 3 heures, 27 pays arabes et occidentaux et 3 organisations internationales ont martelé que le groupe djihadiste était une menace non seulement pour l'Irak, mais aussi pour toute la communauté internationale. Prochain rendez-vous sur l'Irak le 19 septembre pour une réunion ministérielle du Conseil de sécurité de l'ONU.
Oui, Anne, restons sur ce chapitre du terrorisme en relation notamment avec l'État islamique. Eh bien, ici aux États-Unis, le département de la justice et la Maison Blanche ont lancé dans certaines villes américaines des programmes visant à identifier et appréhender les apprentis terroristes avant qu'ils ne passent à l'action. Les précisions de Sarah Diaby.
Cette initiative mobilise les représentants communautaires, les responsables de la sécurité publique les dignitaires religieux, les responsables de la police fédérale en soutien aux efforts nationaux contre le terrorisme, a expliqué le ministre américain de la Justice, Eric Holder. L'émergence de l'État islamique en Irak et en Syrie, où certains Américains tentent de joindre les groupes extrémistes, souligne l'urgence de la menace extrémiste à laquelle les Américains font face, a souligné M. Holder. Selon le ministre américain de la Justice, les États-Unis, à travers la police fédérale, le FBI, travaillent déjà avec les partenaires internationaux et Interpol pour disséminer les informations relatives aux combattants étrangers en Syrie et en Irak, y compris les individus partis des États-Unis. Les nouveaux programmes américains sont coordonnés par le ministère de la Justice, la Maison-Blanche, le ministère de la Sécurité intérieure et le Centre national de lutte contre le terrorisme. Leur lancement intervient en prélude au sommet contre l'extrémisme violent qu'abritera à la Maison-Blanche au mois d'octobre.
Le Parlement ukrainien doit ratifier ce mardi l'accord historique d'association avec l'Union européenne, ce qui vise à éloigner l'Ukraine de la Russie. Le Parlement européen doit également entériner cet accord qui comprend des volets politiques et économiques. Toutefois, l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange est prévue pour fin 2015, le temps pour les Européens de poursuivre les discussions avec Moscou. Sur le terrain, le cessez-le-feu était fortement menacé, l'armée de Kiev et les séparatistes pro-russes s'accusant mutuellement de le violer. Au lendemain d'une journée meurtrière dans l'Est du pays. Les tirs se poursuivaient hier aux abords de l'aéroport de Donetsk. Un bilan faisait état de 6 morts et de 15 blessés.
Voilà donc pour le journal. Merci Anne et à tout à l'heure. Vous êtes branchés sur la VOA émettant de la capitale américaine. Jacques Aristide au micro. Et maintenant la tranche magazine du Monde aujourd'hui. Eh bien, le président Barack Obama s'apprête à présenter son plan de renforcement de la réponse des États-Unis à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le chef de l'exécutif américain se rend aujourd'hui dans les centres de contrôle des maladies, CDC, d'Atlanta pour s'informer des efforts des experts américains pour endiguer l'épidémie. Les précisions de Lionel Gaïma.
Les dirigeants ouest-africains et les responsables internationaux de la santé ont appelé les États-Unis à faire davantage contre l'épidémie d'Ebola. Une situation qui, d'après le docteur Tom Frieden, directeur des centres CDC d'Atlanta, est en train d'échapper à tout contrôle. Les États-Unis ont une responsabilité particulière vis-à-vis de cette crise internationale, a expliqué hier à la presse le porte-parole de la Maison-Blanche.
Our doctors and scientists are some of the best in the world.
Nos médecins et les scientifiques figurent parmi les meilleurs au monde et nous allons déployer leurs connaissances et leurs ressources pour essayer d'aider certains des gouvernements africains à répondre aux besoins de leur population et relever ce défi très difficile, a déclaré Josh Earnest, qui s'est toutefois refusé à donner les détails sur l'annonce que s'apprête à faire le président Obama. Toutefois, le Wall Street Journal cite des responsables gouvernementaux disant que M. Obama envisage d'envoyer un plus grand nombre d'hôpitaux, de campagnes, de médecins, de fournitures et d'experts pour former les travailleurs de la santé au Liberia et dans les autres pays touchés. Depuis le mois de mars, Washington a engagé 100 millions de dollars dans la lutte contre l'Ebola et le CDC a envoyé 100 de ses experts dans la région. Les États-Unis doivent faire plus, a souligné le porte-parole de la Maison-Blanche. Faire un investissement tôt ici est essentiel pour essayer d'enrayer ce problème avant qu'il ne devienne beaucoup plus répandu. Et c'est la stratégie que nous essayons de mettre en œuvre ici. Dans une récente interview à la chaîne télévision NBC, le président Obama a souligné que même si l'Ebola ne constitue pas une menace imminente pour les Américains, contenir l'épidémie est une priorité de sécurité nationale. Si nous ne faisons pas cet effort maintenant et si l'épidémie se répand non seulement à travers l'Afrique, mais dans d'autres parties du monde, il y a la possibilité d'une mutation du virus qui deviendrait plus facilement transmissible. Il pourrait alors être un sérieux danger pour les États-Unis, a déclaré le président Obama.
Une rentrée parlementaire mouvementée hier en République démocratique du Congo, la pomme de discorde, une éventuelle modification de la Constitution en vue des prochaines élections présidentielles. À Kinshasa, nous retrouvons Jean-Paul Mbouya de notre radio partenaire Top Congo FM.
La rentrée parlementaire de septembre s'est faite cette fois-ci sur fond de polémique autour de la question de la révision constitutionnelle. La Chambre basse du Parlement a reçu un projet de loi portant organisation des élections des députés provinciaux qui nécessite une révision constitutionnelle. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku.
Notre agenda a inscrit en bonne place le projet de loi relatif aux élections des députés provinciaux qui appelle au préalable une révision constitutionnelle touchant l'article 197.
Il faut dire que la pierre d'achoppement, c'est plutôt l'article 220 de la Constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels. À ce sujet, le président du Sénat, Léon Kingouadondo, se montre opposé.
Les dispositions intangibles de la Constitution, je pense ici à l'article 220 et à tous ceux auxquels il renvoie, constitue le pivot, le socle, l'armature de toute architecture constitutionnelle. Comment peut-on les modifier sans détruire par ce fait tout l'édifice constitutionnel construit dans la paix.
Notons que la demande de révision de la Constitution concernant l'article 220 n'a pas été déposée à la Chambre basse du Parlement. Quoi qu'il en soit, les partisans comme les détracteurs de la révision constitutionnelle s'appuient tous sur la Constitution elle-même qui prévoit les mécanismes et les conditions de sa propre révision. Kinshasa, Jean-Paul Mbouya, Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
Washington Forum consacré ce jeudi à la situation en Centrafrique. Arrivée des casques bleus, nouveau Premier ministre, report probable des élections, la transition peut-elle encore être sauvée dans le pays? Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook, ils seront lus en direct ce jeudi 19h temps universel pendant l'émission. La Centrafrique en débat, c'est ce jeudi sur La Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, Jacques Aristide au micro. La communauté internationale, vous le savez, se mobilise pour contrer la montée des djihadistes en Irak et en Syrie. Pendant ce temps, le débat autour du paiement de rançons aux groupes extrémistes a été relancé. L'État islamique a récemment décapité deux Américains et un Britannique. Washington et Londres ont refusé de verser une rançon pour leur libération, une approche qui est remise en question. Michel Joseph.
Lors d'un entretien, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a catégoriquement démenti que Paris verse des rançons aux organisations terroristes.
Je ne pense pas que M. Obama ait accusé la France d'avoir payé des rançons.
Il y a fait allusion directement, oui, ces derniers jours.
Oui, ça, vous avez des informations que je n'ai pas. En tout cas, je confirme que la France ne paie pas de rançons.
Cependant, disent certains analystes, les preuves contredisent la déclaration de M. Fabius. Selon des médias français, l'État a payé 34 millions de dollars en échange de la libération de quatre otages français enlevés au Niger en 2010 par ACMI. Ian Bond est responsable de la politique étrangère au centre de la réforme européenne. Ce que nous avons remarqué avec ACMI, dit-il, c'est qu'ils ont fait bonne affaire en kidnappant des touristes occidentaux dans des endroits comme le Niger et le Mali pour ensuite recueillir des rançons de gouvernements européens. La dernière victime de l'État islamique, le travailleur humanitaire britannique David Haynes, a été enlevée en compagnie d'un collègue italien qui a été libéré plus tôt cette année. La presse a parlé de rançon, mais le gouvernement italien s'est gardé de tout commentaire. Le gouvernement britannique, lui, maintient sa décision de ne point verser de rançon à des terroristes. Andrew Silk, directeur des études sur le terrorisme à l'Université d'East London, en précise la raison.
The UK's attitude on this is that if they pay a ransom, they'll simply encourage.
Il dit que de l'avis des autorités du Royaume-Uni, payer une rançon, c'est encourager les groupes terroristes à travers le monde à s'emparer de citoyens britanniques et mettre la vie de plus de gens en danger. Que doivent faire les gouvernements occidentaux? Les États-Unis, par exemple, quand leurs citoyens sont pris en otage, comment faire l'équilibre entre un principe, le non-paiement de rançon, et l'attente de parents réclamant que tout soit fait pour que leurs proches en captivité soient libérés? Selon Hannah Stewart de Henry Jackson Society à Londres, l'idéal serait un consensus international où les démocraties libérales de l'Occident, qui sont la cible de ces enlèvements, conviendraient de ne pas verser de rançon, mais il va se poser des questions de souveraineté et un gouvernement ne peut dicter à un autre la meilleure façon de protéger ses citoyens, dit l'analyste. Le département américain du Trésor a estimé en 2012 que les organisations terroristes avaient collecté environ 120 millions de dollars de rançon durant les 8 années précédentes. Si le versement d'une rançon peut sauver une vie, Washington croit que cette approche ne fait qu'encourager une industrie de kidnapping, et cela avec des résultats horrifiants.
Le grand bol d'air frais musical du matin arrive dans quelques petites minutes, mais rendons-nous d'emblée en Côte d'Ivoire où le rap revient sur le devant de la scène. Une musique engagée qui permet aux artistes de prêcher la paix ou encore de réclamer des emplois pour les jeunes. À Abidjan, le reportage d'Idriss Fall.
Nous sommes dans les studios de jeunes rappeurs ivoiriens qui s'appelle Kiff No Beat.
Moi, c'est Bassa Zeroui Dilem, mais mon nom de rappeur, c'est Didi B. Kiff No Beat, ça veut dire aime nos sons, aime tout ce qu'on fait. Tout souhait qu'un rappeur aimerait. Un de nos tubes, celui qui nous envoie un peu plus loin, qui nous ouvre beaucoup de portes actuellement, ça s'appelle Tu es dans pince, tu es dans des problèmes. C'est en Ouchi ivoirien. Voilà.
Tu es dans pain, c'est Blaka, Blaka Kiff No Beat, à l'état civil c'est Niaoré Oku Camille, fils de Bonnie Niaoré.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça veut dire que tu es dans les problèmes, ça s'adresse plus aux rappeurs ivoiriens, juste pour dire qu'il faut travailler, il faut pas s'asseoir, faut que l'argent te trouve à la maison, faut aller chercher l'argent quoi.
Parce qu'il y a le mouvement hip-hop qui est un peu en retard au pays, et c'est le combat de tous les rappeurs. On veut dire aux gens qui ne veulent pas s'ouvrir à la musique, mais qui veulent rester forcément dans le rap, qui sont dans pain. Parce qu'il faut essayer de faire un peu du commercial, comme on dit, pour pouvoir envoyer notre musique loin. Ce son-là, c'est un son trap. Quand on dit trap dans le rap, c'est comme du coupé décalé actuellement. Et les anciens rappeurs, ils n'aiment pas ce genre de son. Ils se disent qu'il faut les beats old school. Pourtant, il y a un nouveau temps, il y a différentes valeurs. Comme mon père le dit, actuellement à l'école, on aime celui qui s'habille bien. Avant, on aimait celui qui travaillait bien à l'école. Il faut s'adapter à la tendance. On dit dedans, tu rappes fort fort. Quand on dit ici, on dit rap fort fort, on dit tu es trop yo-yo et tu n'as rien.
Maintenant, les paroles pour vous, c'est quoi ?
Blaka, Blaka Kiff No Beat. On parle d'amour, on parle de paix. Nous sommes des vendeurs de rêves en fait. Des enfants classe, swag.
Mais quand on veut faire du rap conscient, on dit vraiment ce qui se passe. On dit vraiment ce qu'on vit. On a fait un son qui s'appelle Meilleur Ami. Ça parle de nos meilleurs amis qu'on veut toujours garder, même s'il nous arrive d'avoir le succès plus tard.
Mais pourquoi vous avez toutes ces tatouages-là sur vos mains ?
C'est la culture hip-hop. Il y a les graffitis, il y a les tatouages. C'est le rap, c'est l'hip-hop, c'est comme ça.
C'est son image. Lui, il veut être différent. Il y a d'autres qui n'ont pas de tatouages. Mais c'est pas n'importe quel tatouage. C'est un tatouage qui dit forcément ton vécu.
Est-ce que le rap a de l'avenir en Côte d'Ivoire ?
La preuve, je suis dans pain, ça passe sur trace.
Ouais.
Ouais, le rap a de l'avenir.
On faisait du coupé décalé, on faisait des gros clips dessus. Mais maintenant, avec ce son, on a eu confiance. Vous verrez par la suite que nos prochains singles seront dans ce style.
C'est pas parce que t'es ivoirien, ton compte YouTube a un problème de vue.
Voilà, depuis les studios de Kiff No Beat, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Et maintenant, l'actualité sportive avec Nicolas Pinault ce matin. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
Football en Europe, la Ligue des Champions reprend ses droits ce soir.
Oui, dans le groupe A au Stadio delle Alpi, la Juventus de Turin qui accueille les Suédois de Malmö. Et puis en Grèce, l'Olympiakos qui accueille l'Atlético Madrid. L'autre club madrilène, le Real, qui reçoit le FC Bâle. Et puis Liverpool en Angleterre face au Ludogorets. Le Benfica accueille le Zenit Saint-Pétersbourg. Le Bayer Leverkusen dans le groupe C qui voyage à Monaco. Et puis dans le groupe D, le choc de cette journée, Dortmund, Arsenal et Galatasaray, Anderlecht.
En Égypte, Al Ahly commence bien la saison.
Organisée traditionnellement avant l'ouverture du championnat, la Supercoupe d'Égypte a été gagnée par Al Ahly qui a eu besoin des tirs au but pour prendre le meilleur sur le Zamalek, 5 tirs au but à 4.
Enfin, le championnat professionnel congolais passe à 20 clubs.
Oui, en République démocratique du Congo, le championnat pour la saison 2014-2015 sera disputé avec 20 clubs contre 16 la saison dernière. C'est ce qu'a indiqué hier la Fédération congolaise de football, la Linafoot. 4 clubs qui sortiront d'un tour préliminaire viendront s'ajouter aux 16 du dernier championnat. La formule A de poule est reconduite avec une répartition selon la situation géographique. Dans la poule A, on retrouve le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi dans le Katanga, tenant du titre. Et dans la poule B, les clubs de la capitale, notamment l'AS Vita Club et le Daring Club Motema Pembe. La compétition, Jacques, je vous le rappelle, devrait débuter en principe le 4 octobre prochain.
Merci Nicolas. L'heure de retrouver Roger Muntou pour la page musicale. Bonjour Roger.
Bonjour Jacques. Sébastien Schuller est un auteur, compositeur et interprète français originaire d'Aubergenville. Sa musique pop et mélancolique qu'il compose et interprète presque en solitaire est un mélange de sonorités acoustiques et électroniques. Il participe à de nombreux festivals et donne de nombreux concerts. Ce matin, on l'écoute dans Black Light.
Roger, il faut le dire, Sébastien Schuller a fait son apprentissage dans la percussion classique avant de s'intéresser à divers instruments, notamment les claviers, je veux dire piano et synthétiseur.
C'est ça Jacques, un artiste talentueux. Si le parcours de ses débuts reste confidentiel, il n'en est pas de même pour le hippie Weeping Willow, paru en 2002 et en 2005, il sort son premier album, Happiness, un mélange d'électro et d'acoustique. Sébastien s'oriente dans une direction pop et organique, un artiste d'une grande délicatesse, Jacques.
Sébastien Schuller, Blacklight. Merci, Roger.
De rien, Jacques. Une dédicace à notre fidèle auditeur à Kinshasa, Sylvain Saint-Gervais Ouzia.
Voilà, rendez-vous quotidien avec Roger Muntou dans RM Show à 20h, temps universel. Avant de refermer le monde aujourd'hui, un rappel des titres avec Anne Albertson.
La SADC ordonne aux rebelles Hutus rwandais des FDLR en République démocratique du Congo d'évacuer les zones tenues dans l'Est, les menaçant d'une action militaire pour non-respect des accords. Au Nigeria, 12 soldats ont été condamnés à mort hier pour mutinerie après des tirs contre leur officier de commandement à Maïdougouri dans le nord-est du pays. Les forces américaines ont mené une frappe aérienne contre une position de l'État islamique pour la première fois près de Bagdad, la capitale irakienne. Ici, aux États-Unis, le département de la justice et la Maison-Blanche ont lancé dans certaines villes américaines des programmes visant à identifier et appréhender les apprentis terroristes avant qu'ils ne passent à l'action. Le Parlement ukrainien doit ratifier ce mardi l'accord historique d'association avec l'Union européenne. Sur le terrain, le cessez-le-feu fortement menacé. L'armée de Kiev et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement de le violer.
Merci Anne, Anne Albertson qui était également à la réalisation. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. C'était Jacques Aristide à Washington. Merci de votre fidélité. Très bonne journée de mardi sur la VOA. À demain matin. Take care.